Très bon début de soirée sur Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir, dans ce 297e numéro de votre magazine culturel, nous allons vous proposer un entretien avec le philosophe Pascal Bruckner. Pascal Bruckner est l'auteur notamment de La Tentation de l'innocence, qui a obtenu le prix Médicis de l'essai en 1995. On lui doit également Les voleurs de beauté, prix Renaudot en 1997, ainsi que Misère de la prospérité, prix du meilleur livre d'économie. On notera aussi Le fanatisme de l'apocalypse, qui a obtenu en 2011 le prix Risque. Et puis mentionnons également son roman Un bon fils. Son œuvre est traduite dans une trentaine de pays. Et très récemment, Pascal Bruckner a fait paraître chez Grasset un nouvel essai intitulé Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité. Nous allons d'ailleurs ce soir vous proposer un entretien avec Pascal Bruckner que nous avons rencontré en avril dernier alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Mais une fois n'est pas coutume, je vous propose d'ouvrir cette émission par une première pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour l'entretien avec Pascal Bruckner. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'altitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement, oh, tout simplement, permet pour cause des sentiments différents. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, oh, tout simplement, permet pour cause des sentiments différents. Tout simplement fermé pour pas inventer dans mon cœur, dans ma tête. Changer tout vraiment. Curieusement, les aiguilles tournent, mais ce ne sont pas celles du temps qui passe, presque en silence, comptant de buts en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Oh, tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Proviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Changer tout vraiment. Pointe du cœur, tourner la page. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à apprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Oh, tu sais, simplement. Fermez pour causer sentiments différents. Reviendrez peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, nous, tout simplement. Fermez pour causer sentiments différents. Tout simplement, fermez pour causer un fantaisie. Dans son cœur, dans sa tête.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bonsoir Pascal Bruckner.
Bonsoir.
Pascal Bruckner, vous signez chez Grasset un nouvel essai intitulé « Racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité ». Alors je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, je précise au début de cet enregistrement que au moment où nous enregistrons, nous sommes le vendredi 21 avril, que dans deux jours, le pays va participer au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, hier soir, il y a eu un policier assassiné sur les Champs-Élysées à Paris. Une action, en tout cas, qui, d'après les informations qui ont été communiquées, que ce soit par le président de la République ou le ministère de l'Intérieur, relève du terrorisme islamiste, enfin, un acte de violence supplémentaire revendiqué par Daesh. Alors, évidemment, votre livre aborde des sujets extrêmement graves et passionnants. Vous parlez beaucoup de l'importance des mots et du combat des idées. Alors revenons peut-être sur ce racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité. Et peut-être d'abord islamophobie, puisque pendant longtemps la France a été plutôt dans une sorte d'islamophilie. Disons quand elle était en puissance coloniale, avec cette acceptation d'un islam préféré plutôt au catholicisme, si oui. Je vous ai bien lu. Et finalement, l'islamophobie serait apparue dès 1979 avec l'arrivée de Khomeini au pouvoir.
Enfin, elle est le mot qui existait depuis longtemps est réapparu à la fin des années 80 en Angleterre, puisque c'est un mot évidemment qui est plutôt anglais que persan. Et les musulmans britanniques l'ont réinventé à l'occasion de la parution du livre « Les versets sataniques » de Salman Rushdie, de sa fatwa prononcée contre lui par l'ayatollah Khomeini.
Alors effectivement, votre livre s'ouvre par une citation d'un roman du célèbre désormais Salman Rushdie. Je lis d'ailleurs cette citation. « Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. » Critiquer la violence militante de cette religion dans son incarnation contemporaine était considéré comme du fanatisme. Alors, il y a beaucoup de mots en phobie, xénophobie, homophobie. Oui. Vous mentionnez même la pauvrophobie dans un rapport daté des Quart-Monde en 2016, en octobre 2016. On vit vraiment dans un monde de haine.
Oui, c'est comme disait Philippe Murray, c'est la cage aux phobes. Mais phobie ne veut pas dire haine, phobie veut dire peur. Et je pense que les Français et les peuples européens ont quelques raisons d'avoir peur de l'islam, puisqu'il faut se souvenir que les musulmans eux-mêmes ont peur de leur religion quand elle est prise d'assaut par les extrémistes. Donc il n'y a rien de honteux à avoir peur d'une religion, d'une foi ou d'un groupe précis, mais on glisse de la peur à la haine comme si l'un allait entraîner l'autre.
Alors vous parlez du rajeunissement lexical mondial de l'islamophobie qui stigmatise donc les traîtres de la foi coranique et qui vise à imposer le silence aux Occidentaux. Alors j'ai été consterné par un certain nombre de faits que vous avez répertoriés dans votre essai. Alors bien sûr vous listez de manière factuelle, beaucoup d'événements. Donc ça commence à 1979 avec l'expulsion de cette féministe américaine.
Kate Millett, oui, qui a été expulsée. Qui est maintenant une dame qui a un peu plus de 80 ans et qui effectivement avait été soutenue par les féministes françaises et notamment par Simone de Beauvoir.
Alors ensuite, il y a l'affaire Rushdie, donc oui. C'est en 88, on le sait, avec cette fatwa qui est lancée contre lui par l'ayatollah Khomeini. Oui. Ensuite, il y a eu, alors vous mentionnez par exemple la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans, c'est en 2001. Et bien sûr, le 11 septembre 2001 à New York. Et puis, on arrive sur les événements plus récents qui concernent la France et l'Europe aussi, hein, parce que votre livre, j'allais dire, est très, très universel oui, dans sa réflexion. Le 7 janvier 2015, l'assassinat de l'équipe de Charlie Hebdo. Il est très dangereux, effectivement, de se livrer à des caricatures du prophète Mahomet. Les dessinateurs de Charlie Hebdo l'ont payé fort cher. Alors que, finalement, on apprend qu'en 2006, le président iranien Ahmadinejad avait organisé un concours de caricatures, lui, mais sur l'Holocauste.
Oui, alors effectivement, il y a toutes sortes d'événements. Les attentats s'enchaînent inlassablement depuis pratiquement 20 ans maintenant, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Il faut toujours rappeler, parce que c'est une vérité, que ce sont les musulmans qui payent le tribut le plus lourd. Les plus grands islamophobes au monde, ce sont les musulmans. C'était les musulmans extrémistes qui tuent, massacrent, égorgent sans relâche leur corps religionnaire, coupable de n'être pas assez pur à leurs yeux. Mais l'affaire de Charlie Hebdo nous prouve que les terroristes ont gagné. En réalité, ils ont gagné au niveau mondial. On pourra continuer à se moquer du pape, on pourra continuer à se moquer du Dalai Lama, on pourra continuer à se moquer des rabbins, des curés, des pasteurs. Mais si par malheur, on se moque de Mahomet ou de Dieu, alors là, c'est la peine de mort quasi certaine. En tout cas, c'est les menaces de mort. Et donc, il y a un deux poids, deux mesures. Et la meilleure preuve de cela, malheureusement, c'est la loi que je trouve scélérate votée par le Parlement canadien qui interdit de critiquer l'islam, alors qu'on peut critiquer le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme, le confucianisme sans problème, et qui est une loi terrible, terrible pour les musulmans, car elle va faire d'eux la cible de la haine populaire, et qui est une loi, en fait, tout à fait de commisération. On fait une aumône aux musulmans, alors qu'en réalité, ce qu'on doit aux musulmans, c'est exactement ce que l'on doit aux chrétiens, aux juifs et aux autres, c'est la vérité. C'est-à-dire que toute religion qui apparaît dans l'espace démocratique doit avoir la possibilité d'être soumise à l'esprit critique et même à la raillerie. À partir de se moquer de l'islam, ça n'est pas du tout le piétiner, c'est au contraire considérer qu'il est maintenant devenu une religion comme les autres et qu'il est entré dans l'espace mental européen. Mais de cela, les intégristes ne veulent pas.
Alors le blasphème a été retiré à partir de la Révolution française comme un délit. C'est même d'ailleurs un iconet, Le Pelletier de Saint-Fargeau, d'ailleurs, vous le rappelez.
Oui, ancêtre de Jean d'Ormesson.
Absolument, oui. Absolument. Et qui, effectivement, dit qu'il faut se libérer de ce crime imaginaire qui grossit les recueils de lois.
Oui.
Alors, en France, le blasphème n'est donc plus un délit. En revanche, il faut rester très prudent. La liberté...
Ah ben la liberté,
de pouvoir railler reste tout de même sous contrôle.
Oui, la liberté est sous condition, puisque comme je le disais à l'instant, on peut se moquer allègrement du pape, de Mère Teresa, on peut se moquer de Moïse, de Jésus, on peut représenter Dieu, le Dieu chrétien sous toutes ses formes, comme un vieux gâteux, comme un barbu, comme un homme, un être sentencieux. Mais le Dieu des musulmans est évidemment sacré. Et alors ce qui est triste, c'est pas simplement ce deux poids deux mesures, c'est que en France, en Angleterre, aux États-Unis, il se trouve tant d'intellectuels et parfois de talents de renom, comme John le Carré, comme Charles Taylor, comme Edgar Morin chez nous, Étienne Balibar, pour nous expliquer que, eh bien oui, il faut respecter les dieux des autres, que l'islam est la religion des opprimés, que par conséquent, toute satire ou tout sarcasme vis-à-vis de cette religion relève d'un geste néocolonial, impérialiste, méprisant et qui doit être puni.
Alors, vous parlez de Salman Rushdie. Vous dites qu'en 88, lorsque paraît les versets sataniques, il a été plutôt soutenu par l'ensemble des écrivains. Mais beaucoup se sont ensuite un petit peu éloignés de lui parce que la menace de mort planait sur Salman Rushdie. Et vous citez même Jacques Chirac à l'époque qui, lui, avait clairement mis une distance avec les versets sataniques de Salman Rushdie.
Oui, alors qu'il n'avait pas lu, évidemment, c'est ça, c'est toujours pareil. Mais a priori, parce que Jacques Chirac a toujours été contre l'occidentalocentrisme, il a accusé Salman Rushdie de vouloir faire de l'argent. Dans un contresens absolument monstrueux, puisque Salman Rushdie a plongé dans une clandestinité abominable pendant 10 ans et qu'il est aujourd'hui encore l'objet d'une fatwa qui a été élevée, je crois, à 3 500 000 dollars. Donc je pense qu'il se trouvera un jour quelqu'un pour la mettre à exécution et empocher le pactole. Mais effectivement, à l'époque, de Pierre Bourdieu à Edouard Saïd, l'intellectuel américano-palestinien, tout le monde avait pris la défense de l'écrivain. Or, aujourd'hui, face à Salman Rushdie, face aux 12 de Charlie, non, le front est divisé. Et je vais vous dire, les pires ennemis de la liberté d'expression, ce ne sont pas tant les islamistes, bien sûr, ce sont les anglo-saxons. Et nous avons là, avec le monde anglo-saxon, un véritable différent, une faille gigantesque, aussi profonde que la distance qui sépare les États-Unis de la France, et avec l'Angleterre également, parce que pour eux, nous sommes un pays raciste, et nous devrions laisser l'islam s'exprimer comme il veut, couvrir les femmes de la tête aux pieds, en faire des cabines téléphoniques ambulantes, et ne pas toucher au sacré de l'autre, parce que c'est la vision très libérale du multiculturalisme.
Pascal Bruckner, si vous le voulez bien, on marque une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. On se retrouve dans une poignée de minutes avec vous pour continuer l'échange autour de votre dernier essai intitulé « Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité » disponible en librairie aux éditions Grasset. Vous écoutez Wagon Livre, votre émission littéraire sur votre radio locale. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Give me a touch of something sure I could be happy ever more.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Toujours à bord de votre émission littéraire sur Radion ce soir avec Pascal Bruckner, le philosophe, qui signe chez Grasset un essai intitulé « Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité ». Il existe assez de racisme véritable pour que l'on n'en invente pas d'imaginaire. Alors Pascal Bruckner, dans votre livre, vous vous élevez contre la bien-pensance à l'égard d'un islam politique. On a bien compris que vous ne condamniez pas l'islam modéré, hein, vous défendez justement cet islam modéré. Et suite aux attentats du Bataclan et dans les cafés du 11e arrondissement de Paris le 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts, le philosophe français Michel Onfray a déclaré, je le cite, « Ces tueries sont de la responsabilité de l'État français coupable de mener une politique islamophobe aux côtés des États-Unis et récoltant ce qu'il a semé. » Alors cela démontre, Pascal Bruckner, qu'il y a des intellectuels français qui considèrent que la position de la France est islamophobe.
Oui, alors évidemment je suis un peu triste parce que j'aime beaucoup Michel Onfray et que je l'ai perdu. Parce que je ne pouvais pas entériner, d'autant qu'il demandait ensuite à négocier avec Daesh et à le reconnaître comme un État de plein droit. Et on voit bien que la suite des événements a montré que Daesh était un État à détruire. Et il va bientôt être détruit et je m'en félicite. Mais effectivement, Michel Onfray a parlé le soir du 13 novembre comme... Philippe Poutou, hier soir à la télévision, donc au moment où cet attentat contre ce policier a eu lieu, où il a mis en cause la politique militariste de la France, et il a demandé qu'on désarme la police. Ce qui quand même, je ne veux pas rentrer dans la campagne qui se termine, mais au moment où on tue des policiers, demander à ce que ceux-ci s'offrent en victime émissaire, main nue face à leur tueur, je dois dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette extrême gauche.
Alors le pape François lui-même vous surprend. Vous rapportez les propos que le pape François a tenus. Alors c'est au lendemain des Journées mondiales de la jeunesse. Donc on est en juillet 2016, extrême fin juillet 2016.
Oui, après Nice.
Et voici ce que... Oui, tout à fait. Merci de le préciser dans le contexte. Après la tuerie de Nice, 14 juillet 2016... Et le pape François dit à la presse « Je n'aime pas parler de violence islamique parce que, en feuilletant les journaux, je vois tous les jours des violences, même en Italie. Celui-là qui tue sa fiancée, tel autre qui tue sa belle-mère et un autre. Et ce sont des catholiques baptisés. Ce sont des catholiques violents. Si je parle de violence islamique, je dois parler de violence catholique. » Alors, où est la faute du souverain pontife dans cette déclaration, selon vous, Pascal Bruckner ?
Selon moi, la faute, elle est énorme. C'est un contresens historique total, parce qu'il est vrai que le catholicisme a été violent. Les Borgia, l'Inquisition, les croisades, les guerres de religion, la chasse aux sorcières, l'antisémitisme. Mais le catholicisme romain, et le pape devrait le savoir, a quand même fait son mea culpa avec Vatican II entre 1962 et 1965. C'est-à-dire que l'Église a officiellement demandé pardon pour ses crimes à la face du monde. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le christianisme soit synonyme de violence, en tout cas pas le christianisme romain. Ça n'est pas une religion guerrière, c'est pas une religion belliqueuse. C'est une religion qui dit au contraire qu'il faut tendre la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite. Et donc de la part du souverain pontife, il y a là quelque chose qui me sidère, parce que Benoît XVI était beaucoup plus lucide. Mais il a démissionné pour raison de maladie. Et on a l'impression que le pape veut absolument ramener tous les problèmes du monde, le pape actuel, à la question de l'argent. Or, c'est un pape qui est marxiste ou crypto-marxiste ou post-marxiste. Et comme tous les marxistes, d'ailleurs comme beaucoup de libéraux également, il est obsédé par l'économie. Il voit de l'argent partout, il voit des rapports économiques partout. Et donc pour lui, le fait qu'il y ait une autonomie de la violence à l'intérieur de l'islam radical, lui est incompréhensible. Et donc il y a forcément, si on parle violence, d'une part il faut mettre tout le monde sur le même plan, et d'autre part il faut absolument ramener ça aux problèmes économiques. Et alors le pape partage cette vision du terrorisme avec beaucoup d'autres gens, toute une gauche,
gauche halal, comme vous l'appelez.
Oui, enfin pas simplement, mais même toute une gauche normale, les libéraux et même M. Macron qui pense que pour résoudre les problèmes de terreur, il faudrait donner du travail aux banlieues. Et elle est alors là, nous tombons dans un travers qui est, selon moi, typiquement occidental, c'est-à-dire qu'au fond, depuis deux siècles, l'Occident a érigé l'économie en raison dernière de la marche du monde. Et nous lisons le monde à travers ce schéma, même lorsque les événements nous contredisent, nous continuons à dire « Ah ben, ce sont des exclus qui se révoltent, ce sont des raisons économiques, c'est la misère, c'est les inégalités. » Et je crois que nous ratons un phénomène qui n'a pas grand-chose à voir avec la rationalité économique proprement dite.
Alors en fait, vous expliquez bien qu'il y a une manipulation des esprits qui consiste à ériger les musulmans un peu comme un nouveau prolétariat, les damnés de la terre, ce sont les musulmans à l'heure actuelle, pas seulement en France, hein, c'est aux quatre coins du monde. C'est-à-dire qu'ils sont écrasés par le monde occidental, l'impérialisme américain et le grand capital.
Voilà, c'est-à-dire le problème étant de savoir pourquoi la religion la moins tolérante aujourd'hui dans le monde veut-elle se faire passer pour une victime. Alors pourquoi ? C'est parce que pour toute une partie de la gauche, même pour une immense partie de la gauche, l'idéal socialiste ou communiste a échoué. Donc la classe ouvrière est partie, elle va même aujourd'hui, nous le savons, voter massivement pour Madame Le Pen. L'URSS s'est effondrée en 1989. Le tiers-monde, qui était le nouveau héros de la gauche radicale, est parti lui aussi, mais vers les rivages maudits du capitalisme et de l'économie de marché. Et donc il reste pour toute cette gauche orpheline un prolétariat de substitution qui est l'islam radical. Et donc on voit bien que depuis une vingtaine d'années, une 30 ans, les musulmans sont en quelque sorte présentés comme la crème de la crème des opprimés. Et donc toute parole critique à leur égard est une parole arrogante, méprisante, qu'il faut faire taire.
C'est le philosophe Pascal Bruckner qui est ce soir l'invité de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Pascal Bruckner, prix Médici de l'essai en 1995, prix Renaudot en 1997. Il est ce soir devant nos micros pour parler de son dernier essai disponible chez Grasset et intitulé « Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité ». On marque une nouvelle petite virgule musicale dans Wagon Livre et on se retrouve bien évidemment dans une poignée de minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy.
no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Pascal Bruckner, alors il faut parler de l'antisémitisme, parce que l'antisémite, l'adjectif antisémite, a été forgé en Allemagne en 1879 par Wilhelm Marr. Le terme de sémite apparaît, lui, en 1845. Il est forgé sur le nom de Sem, c'est-à-dire un des fils de Noé, et ça désigne, à l'origine, un groupe ethnique originaire de l'Asie occidentale. Alors, ce qui est absolument intéressant dans votre essai, c'est que vous expliquez qu'à l'heure actuelle, les musulmans islamistes considèrent que l'État d'Israël fait pire que le Troisième Reich hitlérien. Alors je prends un peu des raccourcis, je m'en excuse, je vous laisse le soin développer un peu, Pascal Bruckner.
Oui, non, c'est, on voit bien que le mot islamophobie est construit symétriquement avec celui d'antisémitisme. Parce qu'au fond, c'est bien le juif qu'il faut à la fois imiter pour ensuite mieux le déloger. Et donc, dans un premier temps, on va expliquer que islamophobie égale antisémitisme, c'est-à-dire que le musulman de 2017 est dans la même condition que le juif des années 30 et 40 en Europe. C'est-à-dire, il est la victime, l'opprimé, le bouc émissaire, celui à qui on fait porter toutes les fautes de la terre. Et dans un deuxième temps, on dira que en réalité, le sort des musulmans est bien plus à plaindre que celui des juifs, puisque les juifs, eux, vivent plutôt bien dans les pays occidentaux et qu'ils ont créé l'État d'Israël, qui est un État colonial. Puis la dernière étape, c'est qu'on va exproprier en quelque sorte les juifs de l'antisémitisme. On va donc nazifier Israël pour mieux judaïser les Palestiniens. Et là, on a une sorte de construction à trois étages qui marche très bien et que toute une partie de la gauche a embrassé avec enthousiasme, ce qui permet à toute une gauche classique de réitérer son vieil antisémitisme.
Alors, on lit des choses surprenantes. Vous citez l'ancien diplomate Stéphane Hessel, qui fait une déclaration à un quotidien allemand en janvier 2011, et voici ce que Stéphane Hessel, vous dites qu'il est d'ailleurs un supporter déterminé du Hamas. Ah, oui. Il dit « L'occupation allemande était, si on la compare avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, une occupation relativement inoffensive, abstraction faite d'éléments d'exception comme les incarcérations, les exécutions, les internements et le vol d'œuvres d'art. » C'est parfois, les bras m'en tombent parfois.
Oui, tomber de sa chaise, il a juste oublié les rafles, le Veldiv, les déportations. Oui, c'est des phrases indignes et c'est une lecture totalement révisionniste et même négationniste de l'histoire. Et penser que l'opinion publique, les médias ont porté Stéphane Hessel au nu comme étant l'incarnation de la nouvelle résistance en dit long sur l'état de la France. Et en fait, oui, c'est effectivement extrêmement triste. Mais voilà les bobards dans lesquels toute une partie de l'opinion marche. parce qu'en désignant Israël comme étant un État pire que l'Allemagne nationale socialiste, on fait d'une pierre deux coups, on efface la Shoah, et puis surtout on en fait bénéficier ceux qu'on soutient, et en l'occurrence pour Stéphane Hessel, c'est les militants du Hamas, qui ne sont quand même pas, à mon sens, des démocrates. Il suffit d'aller dans la région pour le savoir. Il suffit de demander, par exemple, aux gens du Fatah ce qu'ils pensent de leurs camarades palestiniens du Hamas, puisqu'il y a une quasi-guerre civile entre eux. Donc tout cela, on est dans le pur domaine de la propagande et de l'idéologie.
Alors, vous mentionnez une affaire qui date d'il y a quelques années, pour laquelle une société fromagère a été contrainte de présenter des excuses. Alors on va expliquer qu'effectivement il s'agit de ces fameux petits apéricubes que nos auditrices et auditeurs connaissent. Quand on déballe ce petit fromage cubique, à l'intérieur de l'emballage, il y a une question, et il y avait une question qui portait sur le voile, c'est-à-dire à partir de quand le problème du voile s'est-il posé en France ? La réponse, la bonne réponse, c'est Creil en 1989. Et effectivement, il y a un site...
Alcance, oui.
Qui a donc dit que le sourire même de la vache qui rit, et que, en plus, cette question sur le voile islamique dans cet apéricube était une insulte à la religion musulmane. Enfin, c'est quand même aberrant de découvrir cela en vous lisant, Pascal Bruckner.
Oui, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai découvert effectivement des choses un peu étranges, comme vous dites. Oui, c'est une censure insidieuse, le mot islamophobie, parce que les tenants de ce mot vous diront, mais on peut dire du mal de l'islam en France, on a le droit de le critiquer, d'ailleurs on ne fait que ça. La vérité n'est pas tout à fait exacte. La vérité, c'est d'une part, quand vous parlez, vous êtes assigné au tribunal. Je l'ai été moi-même pour avoir traité les indigènes de la République et les indivisibles de complices et collabos des assassins de Charlie. J'ai gagné, on va en appel, je n'ai aucun doute, je vais regagner. Mais bon, ça veut dire quand même que la parole est contrainte. Georges Bensoussan a été, lui, traîné au tribunal pour avoir dit que dans les communautés musulmanes, on têtait d'antisémitisme avec le lait de la mer. Alors, c'était peut-être une formulation maladroite, je n'en sais rien. Il a été, lui aussi, acquitté, mais la procureure a fait appel. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si nous, non-musulmans, nous avons le droit de critiquer l'islam, et encore dans des domaines, dans des limites extrêmement strictes, les musulmans qui s'avisent de porter un regard critique sur le dogme en cours, sont immédiatement traités d'islamophobes, sont menacés. Et là, j'ai un très bon exemple, puisqu'elle vient de publier un livre et que je suis passé avec elle à la télévision, c'est Sonia Mabrouk, donc présentatrice d'origine tunisienne sur LCP, qui a écrit un livre de dialogue avec sa grand-mère et qui dit qu'elle-même est constamment traitée de raciste par les barbus, d'islamophobe, qu'on la menace, qu'on la traite de vendue aux autorités coloniales, de harki, enfin la droite, tout simplement parce que c'est une femme libre qui va les cheveux au vent et qui décide de mener sa vie comme elle l'entend, qui travaille. Pour les intégristes, c'est évidemment insupportable parce que c'est la figure de la traîtresse, c'est-à-dire c'est celle qui, quoique appartenant à l'islam, de par ses origines, vit comme une Française. Et c'est cela qu'il ne supporte pas.
Alors revenons sur l'affaire du Burkini, c'était en août 2016. En quoi finalement ça a été un piège, cette affaire du Burkini?
Alors
ça a été
un piège parce que c'est apparu 8 jours après les attentats de Nice, que c'est vrai la puissance publique a peut-être réagi de façon excessive, trop émotive. Et alors le piège c'est que, et c'est là où ils sont très forts, il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence de nos ennemis. Ça c'est la première règle de la stratégie. C'est que les femmes en burkini étaient accompagnées de caméramans, ils avaient prévenu les télévisions étrangères, et qu'on a vu donc la marée chaussée française obliger les femmes à se déshabiller, ce qui évidemment faisait très mauvais effet. Et là, le New York Times, le Guardian, toute la presse anglo-saxonne s'est déchaînée contre nous. Et on va bien voir ce qui va se passer en juin prochain, quand le beau temps va revenir. Mais je pense, moi en tout cas, je préconise une solution pour nos amis baigneurs et baigneuses, c'est qu'il y aura des femmes en burkini. Ben, je suggère qu'à côté d'elles s'assiedent des femmes en bikini, des femmes topless, des femmes nues, puisque le nudisme est autorisé. Et on verra si ceux qui se réclament du libéralisme et de la liberté tolèrent à leur côté des corps dénudés. Et je n'ai aucun doute que le burkini étant évidemment un instrument d'assujettissement des femmes, lequel n'est d'ailleurs curieusement pas compensé par le burkhalson, comme le proposait Zineb El-Rezaoui, qui travaille à Charlie Hebdo,
journaliste de Charlie Hebdo,
ancienne journaliste. Et bon, on verra si là, ces fameux amis de la liberté tolèrent que l'on soit en petite tenue à côté d'eux. Et je n'ai aucun doute qu'ils ne le toléreront pas, parce que ce sont évidemment des barbares et des fanatiques.
Pascal Bruckner, si vous le voulez bien, on marque un nouvel intermède musical à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de rester avec nous. Nous parlons d'un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité. C'est le titre du dernier essai de Pascal Bruckner, qui est ce soir notre invité. Pascal Bruckner, philosophe, qui a d'ailleurs obtenu le prix Médicis de l'essai en 1995 pour La tentation de l'innocence et Les voleurs de beauté, qui a récolté, lui, le prix Renaudot. C'était en 1997. Un petit coup d'œil sur le programme de la semaine prochaine. Mercredi prochain, à 21h sur Radion, nous serons avec le romancier Gilles Paris. Vous savez, c'est le créateur, le papa de Courgette, celui qui a écrit ce roman intitulé Autobiographie d'une courgette. On reviendra sur son parcours littéraire avec lui et sur son travail d'attaché de presse. Et nous aurons également, dans Wagon Livre, l'occasion de parler de son dernier roman, Le Vertige des Falaises, disponible chez Plon. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, le philosophe Pascal Bruckner.
Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Comme un soleil qui brille dans mes nuits, et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi, et ils te diront comment tu n'es en.
Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Pascal Bruckner, restons un peu sur le sujet, la découverte de l'érotisme de la civilisation occidentale par les migrants. Je reviens sur l'affaire de la Saint-Sylvestre 2015 à Cologne, en Allemagne bien sûr, où 500 femmes allemandes, j'avais oublié que c'était autant.
Je crois que c'est même 1000 femmes.
Ont été sexuellement agressées et vous expliquez, vous commentez. En dénonçant le fait que certaines personnes ont dit « Oui, mais c'est normal, ces hommes de confession musulmane ont été complètement tentés par nos femmes qui sont en mini-jupe, qui montrent trop leurs attraits, trop leur charme. » Et vous écrivez « Le mâle en rut n'est coupable que s'il est blanc, hétérosexuel et occidental. »
Oui, il y a eu toute la controverse d'abord avec Kamel Daoud. Puisque lui écrivait que c'était lié à la misère sexuelle de l'Afrique du Nord, puisque beaucoup de ses assaillants étaient des migrants d'Afrique du Nord. Et puis ensuite, il y a eu la réaction d'un certain nombre de féministes de nos françaises, dont Camille Dehas, qui est une apparatchik du Parti Socialiste, qui a dit que ceux qui osaient pointer l'origine ethnique des assaillants devaient aller déverser, je cite, leur merde raciste ailleurs. Et puis il y a eu Clémentine Autain, grande supporter de M. Mélenchon, communiste, écrivant décembre-mai 1945, 2 millions de femmes voilées, 2 millions de femmes, pardon, violées par l'armée rouge, la faute à l'islam, point d'interrogation. Alors c'était quand même un tweet qui me laisse pantois. D'abord, d'où sortait ce chiffre, 2 millions de femmes violées? Il y a eu des femmes violées, évidemment, et sur ordre de Staline, mais au terme d'une guerre qui a été abominable, on oublie quand même ce que ça a été, la guerre du nazisme contre l'Union soviétique, les souffrances infligées au peuple russe. Donc ça a été des viols de vengeance, alors que l'Allemagne de Mme Merkel avait accueilli 6 mois plus tôt, les bras grands ouverts, avec des villes communes partout, 1 million de migrants. Donc comment comparer les deux choses? Et c'est là où je me dis, il y a toute une gauche qui a perdu la tête et qui donc ne mérite plus effectivement d'avoir la reconnaissance de nos contemporains.
J'insiste sur le fait que votre réflexion, elle est universelle, puisque vous le dites bien, les djihadistes frappent partout, hein, aux États-Unis, en Allemagne, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, au Pakistan. Oui. Vous rappelez aussi la fameuse secte de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Vous parlez de la liberté d'expression. Alors là aussi, vous tapez un peu sur le bec de certaines personnes qui disent « oui, la liberté d'expression », mais vous dites « oui, mais qu'avons-nous à exprimer de si important ?» C'est-à-dire que vous montrez que finalement aussi... Tout le monde revendique la liberté d'expression. C'est un peu comme cette fameuse loi de 1905 sur la laïcité. Mmh. Beaucoup de gens l'évoquent sans la connaître, finalement.
Oui, bien sûr. Ça, c'était la réflexion d'un philosophe catholique qui, manifestement, n'était pas un sympathisant de Charlie et qui disait « Mais qu'est-ce qu'on a de si important à exprimer ?» Alors, il a raison. Sur le plan factuel, c'est vrai que nous n'avons pas tous des choses passionnantes à exprimer, mais qu'enfin, la liberté d'expression est un droit absolu. Qui peut donner lieu à des kilomètres ou des tonnes de réflexions sans intérêt, mais qui est quand même à la base de nos institutions. Et celui qui exprime le doute sur les choses fondamentales que nous aurions à exprimer n'a peut-être lui-même pas grand-chose à dire de neuf sur le sujet.
Alors, votre essai se termine sur un message porteur d'espoir, puisque vous dites qu'il faut que la France résiste un petit peu comme les Britanniques ont su résister à l'époque où l'Allemagne nazie essayait de mettre pied sur cette île. Et page 224, il y a une phrase qui me semble très importante. Pascal Bruckner, vous écrivez « Méfions-nous à cet égard de la connivence des trois monothéismes prêts à se coaliser pour renier nos conquêtes ». C'est-à-dire que votre livre ne tape pas que sur l'islam politique. Vous dites aussi qu'il faut être vigilant à l'égard des trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et...
L'islam. Oui, alors c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une sorte de sainte alliance des trois monothéismes qui se disent on va profiter de l'irruption de l'islam sur la scène publique pour nous réarmer moralement, rogner sur les conquêtes républicaines, revenir sur la loi de 1905 et finalement réintervenir massivement dans l'espace public. Alors cette espérance, elle a été un peu douchée, je dois dire, en juillet dernier quand le père Hamel s'est fait égorger dans son église. coupable du simple fait qu'il était catholique, vieux et prêtre. Et, mais on sent bien que qu'il y a chez les fondamentalistes des trois religions une sorte d'espérance secrète de pouvoir nouer un pacte et pour affronter le seul ennemi qui existe finalement aux yeux des croyants intégristes, qui est la laïcité, le scepticisme, l'agnosticisme, l'athéisme. Alors c'est très minoritaire, mais quand même, on voit bien qu'il y a là cette tentation. Et je me demande même si le pape François lui-même n'est pas un peu victime de cette tendance, même s'il doit prendre en compte, évidemment, et ça c'est un élément très important, la sécurité des minorités chrétiennes en terre d'islam, puisque vous savez qu'il part bientôt au Caire, au moment même où les Coptes se font massacrer allègrement par leurs compatriotes musulmans et par les gens de Daesh. Mais oui, ça existe, bien sûr, il y a la tentative de récupérer un peu du terrain spirituel perdu en raison de la République.
Alors on va mettre un terme à cet entretien, il y a un excellent chapitre, c'est le chapitre 19, Grandeur et tragédie de la tolérance, qui est absolument formidable. Et puis la solution, vous la donnez page 229, parce que vous, je suis certain que vous n'êtes pas islamophobe, je l'ai bien compris, vous dites, il ne faut pas islamiser l'Europe, mais européaniser l'islam.
Oui, c'est évidemment ça, c'est un idéal, c'est un rêve, alors c'est peut-être une utopie, mais je pense qu'effectivement l'Europe aurait les moyens spirituels et matériels d'offrir à l'islam une sorte de terre de ressourcement, une terre de renaissance. Et elle est le lieu où l'islam pourrait se réformer, un peu à la manière dont le christianisme s'est réformé avec Luther, et connaître un renouveau spirituel, théologique. C'est ce que la France essaye de faire, mais c'est difficile parce que d'abord l'Europe est complètement divisée et qu'au fond nous sommes, nous dans l'Hexagone, la seule nation qui résiste un petit peu à cette invasion lente de la réislamisation d'abord des communautés musulmanes et ensuite du reste de la population. Youssef Al-Qaradawi, qui est donc ce fameux prédicateur sunnite basé au Qatar, condamné à mort en Égypte et recherché par Interpol, a bien dit que l'islam avait échoué deux fois face à l'Occident, à Poitiers, devant Charles Martel, et puis en 1683, lorsque les Ottomans ont échoué à prendre Vienne, et que le temps de la revanche, de la troisième reconquête est arrivé, et que celle-là se fera peut-être par la prédication. Nous y sommes, c'est bien le temps de la conquête, donc il faut résister, tout en intégrant les musulmans et tout en laïcisant les croyants du Coran. C'est une tâche redoutable, mais je pense que nous n'en verrons pas la fin d'ici une ou deux générations.
En tout cas, vous expliquez que l'islam politique, les djihadistes, menacent l'islam même.
Oui, alors je pense que ça, c'est un autre problème qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais je pense que l'islam est en train de se suicider. C'est la thèse notamment du très grand poète syrien Adonis, dont je suis en train de lire un livre justement qui explique que le Daesh, c'est la mise à mort de l'islam par lui-même et qu'au fond, cette religion n'aura duré que 15 siècles. Elle a connu l'apogée, elle est dans une longue décadence et dit maintenant, c'est le moment de l'automutilation, c'est la fin. Et lui pense qu'on va entrer dans une série de massacres, de catastrophes abominables où le monde arabe risque de perdre son âme. Donc c'est quand même, lui est un sunnite syrien opposant à Assad, c'est un mystique et son diagnostic ne me paraît pas tout à fait insignifiant.
En tout cas, une lecture intelligente et éclairante pour sortir de tous les obscurantismes, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Donc c'est votre essai, Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité. C'est chez Grasset. Merci, Pascal
Bruckner. Merci beaucoup.